Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse
exclusivement de la musique country
avec Charles Lemoine
et Thomas Révoy.
Salut à tous, c'est Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country. Popcorn et Banjo s'inscrit dans le créneau Vive le cinéma de Aligre FM 93.1. À ma gauche, Charles Lemoine, superviseur musical, journaliste et photographe. Salut Charles.
Salut Thomas.
Et moi-même, Thomas Révoy, réalisateur, journaliste et photographe. Comme vous le savez peut-être déjà, nous sommes tous les deux cinéphiles et nous croyons autant dans le support physique que dans le dématérialisé. Aujourd'hui, nous allons revenir sur plusieurs films que nous avons vus au cinéma, The Mastermind, Howard Zinn, une histoire populaire des États-Unis, La Grazia ou Send Help. Côté musique, vous découvrirez ou redécouvrirez deux autres morceaux de l'album Better Tears de Johnny Cash, puisque Charles nous prépare cette petite rétrospective qu'il a commencé l'épisode précédent. Popcorn et Banjo, la 18e, c'est sur Aligre FM 93.1 et c'est parti. Donc, Charles, pour ouvrir ce nouvel épisode, tu es allé voir Howard Zinn, une histoire populaire des États-Unis 2. Tu avais parlé de ce film dans la fameuse draft qu'on a faite, et c'est donc un documentaire, et je te donne la parole pour recueillir tes retours sur le film.
C'était un film que j'attendais en 2026, et qui malheureusement m'a un peu déçu. Donc c'est un film documentaire, d'après le livre de Howard Zinn, hein, qui donc, il porte exactement le même nom. Et sauf que j'ai été un peu déçu par la séance, puisque c'est un documentaire que je trouve extrêmement poussiéreux, déjà par la voix off, ensuite par le public qui était avec moi. Mais c'est vraiment, j'ai été en fait assez choqué de voir un documentaire au cinéma aussi poussiéreux, quoi.
C'est que des images d'archives ou...
Alors, il y a pas mal d'images d'archives. Il y a aussi pas mal de bien sûr, d'intervenants. Mais il y a une voix off. Je pense que c'est un des réalisateurs qui parle, mais le réalisateur doit avoir... Je vais être gentil, mais il doit bien avoir 70 piges. Et la voix off, elle est presque insupportable. On dirait vraiment, c'est un vieux monsieur qui te tient un peu la jambe pendant une heure et demie. Et qui, en plus, parfois fait des blagues. Il y a une phrase qui est assez connue dans ce dans le bouquin d'Howard Zinn, que le réal répète sans arrêt, c'est-à-dire qui est « Tant que les lapins n'auront pas d'historien, l'histoire sera toujours racontée par les chasseurs. » Ok ? Et sauf que le mec, il le dit sans arrêt, ce truc-là. Et il y a des moments où il parle, où les pilgrims rencontrent les autochtones. T'as la voix off qui fait... Oh, bonjour monsieur Lapin, comment allez-vous? Nous sommes de très gentils chasseurs, je sais pas quoi. Et là tu fais oh mon dieu, et on entend, bien sûr, il y avait, vraiment, je suis désolé, mais je n'ai pas peur des vieux, je les déteste pas, mais il y avait que des vieux autour de moi, ils se sont marrés, et j'étais là en mode, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Et non pas que le documentaire soit pas intéressant, parce que bien sûr, ça retrace vraiment les États-Unis, mais du point de vue, en fait, on va dire, du prolétariat, des opprimés. Et c'est ça qui rend le bouquin hyper intéressant et qui rend le documentaire très intéressant aussi. Mais la façon de faire est tellement désuète que ça te sort un peu du film. Malgré tout, bien sûr, ça reste un documentaire intéressant pour l'histoire. Mais malheureusement, en termes de forme, j'avoue, ça m'a un peu décontenancé.
Mais il y a des prises de vue un peu live des États-Unis aujourd'hui ou pas du tout?
Eh bien, c'est un peu le reproche que je fais justement. C'est-à-dire que moi, je pensais que ce deuxième opus... allait plus parler de l'ère Trump, et il le fait, mais dans les 10 dernières minutes. Donc en fait, j'ai attendu 1h20 pour avoir 10 dernières minutes qui va parler un tout petit peu de Trump, alors que je me disais que c'est ça qui était intéressant, parce que même Trump, en fait, parle de Howard Zinn comme quelqu'un qui dénature complètement l'histoire américaine et qui, en fait, abuse des consciences.
Justement, j'allais te demander, c'est qui Howard Zinn? C'est un historien, un sociologue, un romancier?
C'est un historien qui, en fait, a écrit ce bouquin qui s'appelle Une histoire populaire américaine, qui va, en fait, retracer toute l'histoire des États-Unis, de la découverte de Christophe Colomb aux années 80, on va dire. Ou, je sais plus quand est-ce qu'il finit le livre.
Ok, c'est un bouquin qui a une quarantaine d'années, quoi.
Ah oui, non, il est assez vieux et puis il y a eu des rééditions. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que là où on peut avoir cette un peu image parfois un peu, enfin comme toutes les cultures, que ce soit en France ou ailleurs. L'histoire est toujours racontée d'une façon un peu embellie. Et en fait, Howard Zinn, lui, il va vraiment en parler. Il va pas déstructurer, mais il va plutôt revenir à l'essentiel de ce qui lui semble être la véritable histoire des États-Unis. Et ça passe par l'esclavagisme, par le massacre des autochtones, par le fordisme, etc. Et en fait, à travers tous ces biais-là, en fait, on va pas parler de à quel point Ford c'était bien, mais plutôt à quel point les ouvriers ont souffert. On va pas parler de la conquête des pilgrims et de Thanksgiving d'un côté positif, mais on va dire plutôt voilà ce qu'ils ont fait aux autochtones avec la maladie, avec certains massacres, etc. Donc ça, l'histoire américaine est très intéressante et le bouquin est très intéressant aussi. Malheureusement, encore une fois, la forme de ce docu est vraiment ringarde.
Et tu sais s'ils vont proposer un... Enfin, tu dis ça ouvrait sur l'ère Trump, est-ce qu'ils proposent un 3
Exactement, et je me suis dit, je sais pas si j'irai le voir, mais oui, à la fin du deuxième, il te tease déjà le troisième.
Mais qui, résultat, n'a plus rien à voir avec le bouquin, c'est une prolongation des réals.
Alors, en tout cas, non, le deuxième... En fait, le deuxième parle toujours du livre, en fait, donc...
Non, mais le 3 potentiel, si tu dis que le livre s'est terminé dans les années 80...
Ah oui,
déjà la partie sur Trump, ça c'est une projection du réalisateur.
Oui, bien sûr.
Parce qu'il est Howard Zinn, il est mort.
Il est mort en 2010, je crois.
Ok.
Mais oui, c'est une projection intéressante parce qu'encore une fois, Trump en parle dans certains de ses discours et il y a même une vanne, pareil, de la voix off qui dit, il montre l'extrait où Trump en parle en disant qu'en gros c'est un gros communiste ou je sais pas quoi. Et t'as la voix off qui fait « Oh, merci, monsieur Trump, pour cette belle publicité gratuite !» Et tu fais « Oh là là, voilà. »
Oui, en gros, ils font genre « Howard Zinn est vivant » et ils incarnent... Ouais, ok.
C'est compliqué, quoi.
Okay. Bon, en tout cas, tu conseilles le bouquin plutôt que le film.
Je conseille ardemment le livre. Je pense que si on veut un peu connaître l'histoire des États-Unis, c'est vraiment certainement un des bouquins. De toute façon, c'est aussi un livre très réputé, hein, quoi qu'il arrive, mais moi... C'est certainement un des bouquins les plus intéressants pour comprendre ce qu'est un peu l'Amérique.
Et résultat, on va rebondir sur un autre film de fiction, cette fois-ci, qui se passe aussi aux États-Unis, qui s'appelle The Mastermind, et qui se passe dans les années 70, hein, qui est très réputé notamment pour sa reconstitution des années 70, qui est le nouveau film de Kelly Richards, qui est donc la cinéaste qui avait signé First Cow, qui a très bonne réputation, que je n'ai pas vu. Je ne sais pas si toi, tu l'avais vu.
Non plus.
Et qui raconte l'histoire d'un braqueur un petit peu, comment on pourrait dire ?
Braqueur loser ?
Ouais, exactement, merci. L'histoire d'un braqueur un peu loser et qui a, voilà, qui a la réputation d'avoir un petit peu renouvelé le genre du braquage. Est-ce que d'abord tu veux commencer ? D'abord, on est assez aligné sur ce qu'on a pensé du film, mais peut-être pour des raisons différentes, je ne sais pas. Donc je te laisse me dire toi ce que t'en penses.
Pour être totalement honnête, je crois que je n'ai pas du tout aimé le film, mais j'ai tellement pas aimé que là j'avoue, en sortant, mais vraiment dès que je suis sorti de la salle, j'avoue, j'ai écouté d'autres critiques en parler. Et en fait, je ne comprends toujours pas ce que disent les critiques, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils ne parlent pas du film, du tout, en fait, quand ils en parlent, mais plutôt une projection, encore une fois, très mentale, en fait, mais même pas, j'allais dire, intelligente, pas du tout, c'est pas pour critiquer qui que ce soit, mais je ne comprends pas, en fait, le point de vue qu'ils ont, parce que à aucun moment, ils se raccrochent au film. Et pour une bonne raison, je pense, c'est parce qu'en fait, le film ne propose, à mon humble avis, que très peu de choses en termes en termes de mise en scène, mais aussi en termes d'écriture. Je trouve que les personnages, je ne comprends pas très bien leur caractérisation. Je pense que c'est peut-être un peu fait exprès parce que le personnage principal, en fait, est un mec qui est un peu sans taf, qui flotte un peu partout, il essaie de faire ce qu'il peut. C'est une espèce de braqueur, encore une fois, un peu raté, qui prend des gens qui sont aussi ratés que lui. Il va y avoir un effet un peu boule de neige sur le braquage d'œuvres d'art qu'il essaye de faire. Mais du coup, ça donne un...
D'ailleurs, c'est plus un cambriolage, je pense. Oui, c'est moi qui ai dit braqueur, mais c'est plus un cambriolage, en réalité, d'œuvres d'art.
Oui, t'as raison, c'est complètement du vol. En tout cas, ça... J'avoue, moi, je n'ai pas beaucoup ressenti des années 60, pour être honnête. À part si avoir un col roulé et porter de la laine, ça veut dire que c'est les années 60. 60-70. Bah, c'est pendant le Vietnam, en tout cas. Mais même ça, je trouve que ça dit pas grand-chose, en fait, d'une certaine Amérique. J'ai l'impression que le film passe un peu à côté de tous ces sujets. Je pense qu'il y a une séquence que j'ai bien aimée, mais j'en reparlerai peut-être plus tard. Mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé un peu en...
Bah, ouais, alors moi, c'est le premier film de Kelly Richards que j'ai vu. J'en ai parlé à des amis après l'avoir vu, qui m'ont vraiment dit qu'en fait, c'est assez représentatif, visiblement, de ce qu'elle fait en termes de rythme. Ce côté un petit peu... C'est très lent, hein, c'est des films lents. C'est des films un peu planants, mais sans le côté potentiellement... sans le côté LSD ou drogue en tout genre. Hein, c'est vraiment juste extrêmement long et lent. Et oui, moi, je suis pas rentré dedans du tout. Il y a quelques vannes un peu sympathiques, c'est parsemé un petit peu de touches d'humour, et pareil, je crois que c'est un peu nouveau dans son cinéma. Bon, c'est assez sympa, voilà, quand les cambrioleurs quittent le musée avec l'étoile, et puis qu'il faut ouvrir le coffre, et que ça prend 3 minutes, enfin, il y a des petits gags un peu sympathiques, mais ça rehausse pas le film pour autant, ni le rythme d'ailleurs, ni le film en soi. Et puis moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont agacé dans le film, que je trouve aussi pas du tout crédibles. Notamment déjà comment ils volent les œuvres d'art. Je sais qu'on est dans les années 70, mais j'ai eu un peu du mal avec ça. J'ai eu un peu du mal à... Et je pense que le film se veut tellement... Il y a une forme quand même de premier degré dans le rythme qui fait que j'ai du mal à me dire... par exemple, on va en reparler, mais dans Send Help, c'est vraiment l'opposé total.
Oui.
Mais pour le coup, ça se veut tellement 30e degré. Tu sais, quand l'actrice principale... se fait des vêtements avec des palmes de palmiers, etc., en 30 secondes, que tu sais que c'est un peu ironique, et donc tu prends le parti d'accepter toutes ces incohérences. Là, dans ce film-là, dans The Mastermind, il y a des grosses incohérences de ressenti, quoi. Moi, j'y crois pas une seule seconde à leur cambriolage. Et comme le film se veut assez premier degré, je pense, je suis agacé, quoi. Et y a pas mal de scènes qui je trouve servent à rien. Je comprends pas non plus pourquoi la femme de l'acteur principal l'envoie chier alors qu'elle est aussi, c'est aussi quelqu'un qui vit du recel d'œuvres d'art, quoi. Donc je comprends pas pourquoi soudainement elle est énervée qu'il continue à faire entre guillemets son taf. J'ai du mal avec la scène où il dort chez ses amis aussi. Enfin, c'est pas que j'ai du mal, mais je comprends pas très bien à quoi elle sert. Bon, voilà. Donc non, j'ai vraiment pas adhéré. C'est même un film qui est venu me chercher un peu dans l'agacement à la fin parce que je trouvais ça interminable. J'ai du mal à comprendre et à saisir pourquoi ce film est un succès critique. Très gros succès critique. Et voilà, c'est quoi la scène que t'as aimé, toi? Je suis curieux.
Et ben justement, alors pour te rejoindre aussi, j'ai vraiment, moi je trouve que la fin est interminable, et vraiment la fin du film, justement, je la trouve ultra agaçante, ultra galvaudée, même dans ce rythme très réaliste qu'elle instaure. Cette fin, je la trouve presque clownesque, et je trouve ne marche pas du tout, et c'est justement, j'ai l'impression que c'est encore une tarte à la crème qu'elle t'envoie dans la tronche. Après tout ce que tu te tapais, c'est vraiment, t'en ressors vraiment un peu, pas en colère, mais vraiment un peu saoulé. Et par contre, non, j'avoue, moi, il y a une scène que j'ai aimée, c'est une séquence où le personnage principal a en fait volé les œuvres d'art, essaie de les cacher comme il peut, dans une espèce de porcherie. Et la séquence, je sais pas combien de temps elle dure, mais elle doit durer bien 10 minutes. Et c'est vraiment, en fait, il a une énorme boîte en bois où il a caché les œuvres d'art, et en fait, il va d'abord enlever les œuvres d'art, les monter au-dessus, sur une espèce de premier étage.
Dans une grange, quoi.
Voilà, dans une grange, exactement, le premier étage de la grange, avec le petit escabeau en bois, là, les petites échelles en bois qui est dégueulasse. Et en fait, il va enlever la première table. Ensuite, il va prendre les deux tableaux. Ensuite, il va prendre la caisse de bois. Il va essayer de la soulever. Ensuite, il va ranger les tableaux. Il va fermer la caisse de bois. Mais tout ça, c'est vraiment, effectivement, c'est temps réel. Mais je trouve que, autant dans plein de séquences, je n'ai pas très bien compris l'utilité du temps long. Et parfois même, je ne comprends pas où la réalisatrice va en venir, même dans sa proposition. Là, j'ai trouvé que cet étirement, cette élasticité dans le temps donne justement un côté assez pathétique à la situation, où tu sens que vraiment le gars, en fait, il a vraiment réfléchi à que dalle, il sait pas trop ce qu'il fout. Et il y a ce truc-là qui est tellement lent que ça en devient aussi très drôle, mais parce que, vraiment, ça dure une éternité. Et autant dans, je trouve que dans la plupart des 5 ans, ça ne marche pas, autant dans celle-là, et surtout, il y a quand même une chute, littéralement, dans cette séquence, qui, en fait, fonctionne entièrement, et ça rend presque un... C'est presque un court-métrage, je trouve, dans tout le film, et je trouve que c'est une séquence qui marche très bien et qui aurait pu peut-être fonctionner ailleurs dans d'autres endroits, parce que c'est ce qui est fait, elle étire le temps tout le temps, mais malheureusement, ailleurs, pour moi, ça n'a vraiment pas fonctionné.
Oui, oui, là, ça tout tend vers la chute, et pour le coup, ça, je suis d'accord que ça fonctionne assez bien.
Et toi, Thomas, tu voulais nous parler aussi d'un autre film que tu as vu, et que moi, je n'ai pas vu, parce que j'avoue, ça ne me tentait pas trop.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1, Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country. Eh ben, écoute, c'est marrant parce que après avoir vu The Mastermind, je me suis dit que j'allais me changer un peu les idées avec un petit bonbon un peu piquant. Et donc, dans la séance d'après, à 22h, je suis allé voir Primate parce que un singe tueur qui décime une bande de jeunes adolescents dans une villa en Thaïlande, ça avait tout pour vendre du rêve. Et je me suis dit que ça m'apporterait un bol d'air frais. Et ben, c'était excessivement chiant. Très, 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 très chiant. Pas très bien filmé, même assez mal filmé. Et puis, bah ouais, très en dessous de mes attentes. Il y a des bonnes idées à la fin. Il y a quelques scènes très, très gore. Mais bon, pour moi, c'est vraiment un échec. Le film se revendique de Carpenter, notamment surtout dans sa musique, en fait. Et moi, la musique m'a beaucoup agacé, ce qui montre bien que d'utiliser des synthés, bah, ça suffit pas pour être un héritier de Carpenter. Je trouve que le décor est beau, mais les deux tiers du film se passent dans la piscine, parce que les jeunes se cachent dans la piscine, parce que le singe a peur de l'eau. Donc en fait, tu te retrouves avec une espèce de huis clos où ils peuvent pas sortir de la piscine. Et tu vois, enfin, il y a un côté redondant. Après, vraiment, je suis très friand de cette idée. J'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup. Je pense le concept qu'il y a derrière et ce que le cinéaste a vendu. Mais voilà, je trouve que ça fonctionne pas. C'est dommage. En revanche, les effets gore sont cool, généreux. Et voilà, faut le voir pour ça, quoi. Mais ouais, un peu déception cette journée avec ces deux films, et j'en attendais plutôt du bien. Très bien. Est-ce que tu veux déjà nous présenter peut-être un petit peu Johnny Cash ?
Dans l'émission précédente, je vous ai parlé de manière assez générale de l'album de Johnny Cash, et j'avais glissé presque en passant qu'un autre auteur avait écrit une grande partie des morceaux. Et aujourd'hui, on va un tout petit peu s'arrêter sur lui. Parce que derrière Bitter Tears, il n'y a pas seulement la voix de Johnny Cash, mais il y a aussi un homme qu'on connaît beaucoup moins derrière les textes et qui s'appelle Peter Lafarge. Alors, Peter Lafarge, c'était un poète, un chanteur, un activiste. Il appartient vraiment à cette scène folk new-yorkaise du début des années 60. Alors, Lafarge, c'est un ancien vétéran de la guerre de Corée, hein, qui était aussi passionné de rodéo et qui était cow-boy de rodéo, et qui, après une blessure, en fait, va partir à New York. Il va alors évoluer, on va dire, dans le même univers hein, que des Dave Van Ronk, ou des Bob Dylan, ou des Pete Seeger. Donc, dans un milieu, on va dire, folk, très engagé politiquement, et où la musique va vraiment servir de contre-culture. Et son père, Oliver Lafarge, qui était un écrivain, un anthropologue, qui a aussi eu un prix Pulitzer, qui était en fait un grand défenseur des peuples autochtones. Et c'est vraiment cet héritage qui va profondément marquer Peter, et il écrira donc plusieurs morceaux à ce sujet. Et sur les 8 morceaux que compte l'album sur Bitter Tears, il y en a quand même 5 qui sont écrites par Lafarge. Et là, moi, ça me donne un peu cette impression que c'est pas, on va dire, Lafarge qui a écrit pour Johnny Cash, mais c'est plutôt Cash qui va mettre sa voix au service de l'art narratif de Lafarge, et qui va par la suite écrire vraiment autour de ses textes. Et là, justement, les 2 morceaux que je vous propose aujourd'hui sont bien sûr écrits par lui. Alors, le premier morceau que nous allons écouter s'appelle « The Ballad of Ira Eyes ». Donc, c'est une chanson qui raconte l'histoire de Ira Eyes, qui était un autochtone Pima, devenu héros de la Seconde Guerre mondiale. Hein, il faisait partie de ces soldats photographiés pendant, vous savez, le célèbre lever du drapeau à Iwo Jima. Donc un énorme symbole national qui a été exhibé un peu partout, même dans tous les livres d'histoire. Et qui à l'époque servait en fait, qui était utilisé pour soutenir l'effort de guerre, hein, avec les soldats qui ont justement porté ce drapeau et qui ont fait le tour de l'Amérique. Il y a un film à ce sujet hein, que vous connaissez peut-être, qui était À la mémoire de nos pères, hein, de Clint Eastwood. Mais en tout cas, une fois la guerre terminée, Ira Hayes retourne à l'anonymat, et dans une Amérique qui continue à discriminer et à être raciste, malheureusement, il va sombrer petit à petit dans la dépression, dans l'alcool, et il va mourir dans les années 50 à l'âge de 32 ans. Ce que fait ici Lafarge, est, je trouve, extrêmement fort, hein, il va démonter le mythe en fait, du héros, et va montrer justement l'écart entre l'image vraiment clinquante et glorieuse que l'Amérique aime afficher, et la réalité vécue par un homme autochtone. C'est un texte qui est, je trouve, assez dur, très amer, et donc aussi très politique. La deuxième chanson que nous allons écouter s'intitule « Drums », et là on quitte un peu le récit historique, puisque « Drums » nous parle plutôt à la base de ses enfants, en fait, qu'on emmène à l'école, et à qui on va apprendre à être, bien sûr, entre guillemets, un homme blanc. J'en ai parlé dans la chronique précédente. Mais effectivement, l'Amérique a essayé de faire de l'assimilation très forcée et a essayé d'effacer un peu toutes les cultures qui n'étaient pas celles qui représentaient les valeurs de l'Amérique. Hein. En tout cas, les tambours ici ne sont pas seulement physiques, hein, c'est plutôt une vibration mentale, le son vraiment d'un esprit, d'une histoire qui ne peut littéralement pas être déraciné. C'est vraiment une mémoire collective, j'ai envie de dire. Hein. C'est vraiment une culture qui était là avant les colons et qui, quoi qu'il arrive, leur survivra. Bonne écoute.
Ira Hayes. Ira Hayes, call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian, nor the Marine that went to war. Gather round me, people, there's a story I would tell about a brave young Indian. You should remember well, from the land of the Pima Indian, a proud and noble band who farmed the Phoenix Valley in Arizona land. Down their ditches a thousand years, the waters grew Ira's people's crops, till the white man stole their water rights and the sparkling water stopped. Now Ira's folks were hungry and their land grew crops of weeds. When war came, Ira volunteered and forgot the white man's creed. Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey-drinking Indian, nor the Marine that went to war. There they battled up Iwo Jima Hill, 250 men, but only 27 lived to walk back down again. And when the fight was over, and Old Glory raised, among the men who held it high was the Indian, Ira Hayes. Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey-drinking Indian, nor the Marine that went to war. Ira Hayes returned a hero, celebrated through the land. He was wined and speeched and honored. Everybody shook his hand. But he was just a Pima Indian,
No water, no home, no chance. At home, nobody cared what Ira done. And when did the Indians dance? Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey-drinking Indian nor the Marine that went to war. Then Ira started drinking hard. Jail was often his home. They let him raise the flag and lower it like you'd throw a dog a bone. He died drunk early one morning, alone in the land he fought to save. 2 inches of water in a lonely ditch was a grave for Ira Hayes. Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey-drinking Indian nor the Marine that went to war. Yeah, call him drunken Ira Hayes, but his land is just as dry, and his ghost is lying thirsty in the ditch where Ira died.
They are living, with the great Geronimo. And there are drums beyond the mountains, Indian drums that you can't hear. There are drums beyond the mountains, and they're getting mighty near. Well, you may teach me this land's history, but we taught it to you first. We broke your hearts and bent your journeys. Broken treaties left us cursed. Even now, you have to cheat us, even though you think us tame in our losing.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country.
Et donc, nous passons tout de suite au deuxième film, La Grazia, réalisé par un... Je ne sais pas si c'est un de tes chouchous, toi, d'ailleurs, Paolo Sorrentino.
Écoute, ce n'est pas du tout un de mes chouchous, donc je ne suis pas partie prenante de ce que je vais vous dire sur ce film. Bon, j'avais beaucoup aimé la première heure de La Grande Bellezza, j'avais beaucoup moins aimé la dernière partie. J'ai vu Les Conséquences de l'amour, que j'aime bien aussi, mais voilà, en fait ça s'arrête là. Je trouve souvent que son cinéma est trop voyant, trop un poil prétentieux. J'ai pas vu sa série de New Pope, non, c'est ça, avec Jude Law. Et puis j'ai pas vu Parthenopée, j'ai pas vu Youth, voilà, mais bon, en tout cas c'est un type qui sait tenir sa caméra, c'est sûr, mais c'est pas un cinéaste de mon cœur. Et pourtant il a fait La Grazia, qui est sorti donc le 28 janvier dernier, jour de mon anniversaire. C'était son cadeau pour moi. Et j'ai trouvé le film absolument bouleversant. J'ai trouvé que c'était un très, très grand film. C'est un film qui parle du deuil et qui ne parle de rien d'autre que du deuil. C'est un film sur un président de la République italienne, qui s'apprête à terminer son dernier mandat et donc à prendre sa retraite. Simplement, avant de prendre sa retraite, il a trois choses à faire. Il faut qu'il passe une loi sur la fin de vie, merci, l'euthanasie, et il faut qu'il signe éventuellement ou non, mais il a deux dossiers de grâce à prendre en compte et potentiellement à signer. Sauf que ce président, il est veuf de sa femme, et en fait, il n'arrive plus à prendre des décisions, il est dans sa tête, il est dans le passé, il déambule dans son palais présidentiel. C'était un type extraordinairement vif et acéré avant la perte de sa femme. On le découvre le temps d'une scène, notamment quand enfin il s'attaque à une loi quand il se met à décortiquer un texte de loi pour donner son avis sur cette loi. Et puis, il déambule, il est dans ses pensées, et il parle à sa fille, à son garde du corps, et on découvre, en fait, un petit peu ce que c'est que d'être en deuil, en fait, quelque part. Et après, j'ai énormément de choses à en dire, donc je sais que toi, t'as vraiment pas du tout aimé le film, donc peut-être tu vas nous dire un peu ce que t'en as pensé. Et après, on va faire un ping-pong, parce que pour moi, il y a beaucoup de scènes importantes qui sont sublimes, notamment à la fin. Il y a deux scènes qui se suivent qui sont très très belles. Mais voilà, moi j'ai énormément aimé ce film et je le recommande à tous. Est-ce que toi, tu veux nous dire ce qui t'a déplu dedans ?
Alors, j'ai pas détesté non plus le film. Parce que je trouve pas qu'il soit mal écrit, par ailleurs.
Tu voulais quand même partir du... Il m'a quand même dit au bout de 30 minutes, je voulais me casser. Donc, quand il déteste un film, c'est 30 secondes.
Oui, c'est vrai que j'ai voulu vite me casser, mais parce que moi, il y a une scène que je trouve insupportable, qui est la scène du président portugais, là. Que je trouve, mais affreuse. Et c'est là où je me dis, OK, si le film parle de ça pendant deux heures, ça va me saouler.
La scène sous la pluie, là.
Ouais. Et le film ne parle que de ça pendant deux heures.
Mais en même temps, c'est vachement intéressant. C'est notre réalité. C'est-à-dire que le pouvoir appartient aux vieux. Et les vieux qui mettent 20 minutes à sortir de leur caisse.
Oui, mais clairement...
C'est ça aussi que ça dit. Hein.
Oui, mais alors clairement, je trouve que... Oui, mais la séquence parle pas vraiment de ça non plus. C'est plutôt son propre reflet de la mort, parce que le mec, il porte le même chapeau, le même trench coat que lui. Et en fait, c'est 20 minutes de mec au ralenti, où le mec voit sa propre mort et il dit, voilà ce que je vais être plus tard, tu vois. Parce que le film parle du deuil, mais il parle aussi de la mort, dans le sens où...
il parle de la mort à tous les niveaux.
Où il parle de la mort dans le sens où le... il a... En fait, là, son mandat est fini. En fait, la prochaine étape, c'est ça, c'est attendre la mort. Et c'est comme on attend la mort. Et il y a une phrase qui est tout le temps répétée dans le film, qui est à qui appartiennent nos jours. Et on saura à la fin, enfin, il y aura une réponse à cette question. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai effectivement pas beaucoup aimé dans ce film, c'est vraiment le côté très surligné de la chose. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a des énormes panneaux en néon rouge qui te clignotent de partout, qui vont dans une seule direction. Et en fait, c'est un tunnel où sans arrêt, donc ça parle de la mort. Je fais « Ok, j'ai compris, il est en deuil, ok. » Mais ensuite, il y a l'euthanasie. Ok, la loi sur l'euthanasie qui est en lien à la mort. Ok, j'ai compris. Mais ensuite, il a un cheval présidentiel qui va bientôt mourir et en fait, il doit là aussi prendre une décision de savoir si on doit l'euthanasie ou pas. Donc tu fais, ok, j'ai compris. Et en fait, tout le film, sans arrêt, est surligné, piétiné. Et en fait, c'est pour ça qu'au bout d'une demi-heure, quand j'ai capté que ça allait être juste des espèces d'itérations de la même idée, en sachant que je trouve que c'est bien filmé, mais c'est pas non plus extraordinaire. Donc j'étais en mode, si c'est pour me raconter en boucle la même chose, alors oui, effectivement, là, ça parle aussi d'un vieux monsieur qui raconte toujours la même chose, quoi. Mais vraiment, ça m'a beaucoup agacé. Il se trouve que je suis assez d'accord avec toi, je pense qu'il y a une scène, moi, qui m'a... Je suis sorti du film, en fait, avec un truc un peu doux-amer, parce qu'il y a une séquence, peut-être pas finale, mais effectivement, dans la toute dernière partie, que je trouve très belle, où il parle de sa femme. Ça, peut-être qu'on pourra en reparler. Mais dans l'ensemble, j'étais plus agacé par le film qu'autre chose, ouais.
Mais pour moi, ce que tu dis, c'est ça que je trouve intéressant. C'est pas surligné, en fait. C'est juste qu'il y a une espèce de... Il y a un cynisme où, en fait, tout ce qui entoure ce monsieur, c'est des choses qui le relient à la mort de sa femme, indirectement ou directement. Et comme tu dis, et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à choisir. Et pour moi, c'est ça que je trouve très beau. Il n'arrive pas à choisir si on doit euthanasier son cheval. Il n'arrive pas à choisir s'il doit gracier ou non les personnes concernées. Il n'arrive pas à signer cette loi sur l'euthanasie. Il est complètement... En fait, c'est quelqu'un qui est figé, qui n'est pas du tout un légume, en revanche. Hein, c'est pas du tout quelqu'un qui est tombé en dépression suite à la mort de sa femme. Il continue à échanger avec ses amis, avec sa fille, avec son garde du corps, mais il s'est arrêté un petit peu. Il n'arrive plus à décider. Et pour moi, c'est pas pour souligner, c'est plutôt une forme d'ironie du réalisateur de le mettre en situation où le quotidien de ce président n'est plus rien d'autre que des questionnements et des choses à des prises de décision liées à la mort, et il n'arrive pas à le faire. Il est que... Alors, ce que je trouve très beau dans cette scène finale, je sais pas si tu te souviens, mais pour moi il y a deux choses très belles. C'est que tout le film, il parle de sa femme. La femme est très 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 présente, mais elle n'est jamais présente physiquement, à l'exception de 2-3 flashbacks. On la voit un peu de dos, un peu de, je crois, de 3/4, mais je veux dire, elle n'existe pas sous forme de fantôme. En revanche, elle est là dans tout le film, dans les dialogues, hein, et puis elle est dans son absence, elle est très présente. Dans ses cadres aussi, lui, il est toujours cadré, isolé, il est toujours loin de ses gardes du corps, loin de, il est toujours seul, quoi, dans le cadre. Enfin bon. Mais il y a deux scènes qui se suivent où, en fait, le président est à la retraite, il rentre chez lui. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a une scène où il s'allonge sur son lit et il attrape une paire de lunettes dont on comprend que c'est les lunettes de sa femme, c'est complètement des lunettes de femme. Et il les met et il voit flou. Il y a un POV, un point de vue, hein, on voit juste un plan flou de quelques secondes. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup touché parce qu'on comprend que, en fait, quelque part, il voit comme elle, en fait, même si j'imagine que, comme les lunettes étaient réglées à la vision de sa femme, techniquement, il voit pas comme elle, mais il met les lunettes de sa femme pour voir comme elle, et je trouve ça très beau. Et évidemment, la deuxième scène, c'est, il est au téléphone avec la... Alors, on spoil, attention, et je pense que tout le film tend vers cette scène, donc si vous allez le voir, peut-être réécouter après, mais il est au téléphone avec... c'est quoi, c'est la...
Il est au téléphone avec la meuf de Vogue, parce qu'au début du film, en fait, Vogue veut faire une interview du président sur ses fringues, et en fait, il dit, moi, de toute façon, je suis un bureaucrate, donc en fait, c'est ma femme qui s'habillait bien. Et c'est juste un peu jeté comme ça. Et une fois, en fait, qu'il a enfin pris sa retraite, justement, tout retombe, Et en fait, il revient dans son ancien chez lui. En fait, il est rattaché justement vraiment plus intensément au souvenir de sa femme. Et c'est là où il décide d'appeler cette femme de Vogue. Et il y a cette scène très jolie où il va justement aussi, il parle à travers les robes de sa femme. Il y a une espèce de grand dressing avec plein de couleurs. Il déambule comme ça. Et c'est très, très beau.
Il dit exactement. Il dit, moi, c'est ma femme qui était l'excentrique du couple. Moi, je portais du gris, elle portait des couleurs. Et soudainement, on est dans le dressing. Et donc, évidemment, on comprend que c'est les vêtements de sa femme. Et c'est la première fois, et je trouve ça très, très, très beau en termes de mise en scène, qu'on parle de sa femme et que le cinéaste Sorrentino allie la parole avec le toucher, puisque en fait. Le président, l'ex-président caresse les étoffes de couleur de sa femme en parlant de sa femme. Et moi, c'est une scène qui m'a vachement touché, où tout d'un coup, il se met à se souvenir de sa femme et à en parler d'une autre manière, soudainement. Il en parle dans quelque chose de ressenti, quoi, d'émotionnel très fort. Et voilà, et moi, c'est pour toutes ces petites choses que j'ai trouvé le film très, très beau. Je trouve, les questionnements, les échanges avec les condamnés à la prison, etc., qui doit gracier, vachement intéressant aussi. J'ai vraiment trouvé que c'était un film assez fin. Donc voilà, mais en tout cas, un film étonnant. J'ai beaucoup aimé l'ouverture avec la musique pop. Je te souviens pas avec les avions de chasse qui traversent. En fait, ce que j'ai aimé, c'est le film commence vraiment sur le président de la République.
Des avions de chasse.
Des avions de chasse. Non, mais tu sais, c'est le président de la République qui fume une clope. Il y a une musique électro énorme. Et puis, des avions qui tracent le drapeau italien dans le ciel. Et tout, en banc-titre, il y a tous les pouvoirs du président de la République qui apparaissent à l'écran. Le président de la République a le droit de ci, il a le droit de ça, il détient les pouvoirs de ci, il détient les pouvoirs de ça. Tout ça dans un plan très stylisé avec Tony Servillo qui fume une clope. Et donc tu te dis, ça va être une énorme parabole sur le pouvoir en fait, et sur une dénonciation du pouvoir. Et en fait, ça redevient un film hyper intimiste sur le deuil, quoi. Et la mort.
Bah moi, c'est ça qui m'a aussi un peu déstabilisé au début, parce que je me dis, avec tout ce qui se passe en ce moment en termes de politique, et puis surtout en politique italienne, hein, on peut pas dire que ça, enfin, en tout cas de mon point de vue, que ça se passe pas très bien. Je me suis dit, c'est assez bizarre de voir, voir en fait un président plutôt. Ça donne cette impression-là, parce que ça fait 8 ans qu'il est au pouvoir. Hein. Ça fait autant de temps que sa femme est morte aussi.
Ouais, mais c'est son deuxième mandat.
Donc, ouais. Mais du coup.
8-10 ans, je sais pas combien de temps les mandats.
Là, en tout cas, c'est 8 ans. Mais en tout cas, ce que ça fait, c'est qu'en vrai, on dit ça a été un super président, mais on voit jamais trop ce qu'il a fait. Et il doit juste. C'est pour ça que moi, ce postulat où tu dis, en fait, depuis que sa femme est morte, il bouge plus, mais en fait, depuis que sa femme est morte, il est au pouvoir et apparemment, ça a été un super président. Donc, il y a un truc comme ça que je trouve qui n'a. Mais quand j'avais vu le film, que je trouvais un peu bizarre. Mais.
Elle est pas morte après son premier mandat, en tout cas.
Non, elle est morte il y a 8 ans, dans le film. Okay. Mais en tout cas, ça change rien que, du côté où, en fait, je trouve ça bizarre que ce soit une politique vraiment complètement imaginée et surtout assez douce, assez délicate. Et au début, ça m'a fait un peu bizarre parce que c'est là où je me suis dit effectivement que ça allait pas être un brûlot politique, que ça allait être autre chose. C'est pour ça qu'en fait, il esquive complètement ce côté politicien pour aller justement complètement dans le deuil. Mais là où tu trouves ça fin et délicat, moi je trouve que c'est encore une fois vraiment stabilité au plus haut point. Et moi j'avoue aussi, moi j'ai un vrai problème avec la musique techno-électro qu'il y a de temps en temps, où je me dis c'est vraiment un truc de pubard, quoi. Je peux pas m'empêcher de me dire, c'est vraiment le côté clinquant que je ne comprends pas, où c'est tellement appuyé sans arrêt, que vraiment moi ça me sort presque du film, mais presque pas de la colère, mais... ça me gonfle terriblement. Après, je suis d'accord avec toi, moi, la scène de fin où il parle à cette femme pour Vogue, je trouve que la scène est bouleversante, mais c'est pas parce que j'ai vu les 2 heures de film avant. Je pense que la séquence en elle-même est bouleversante parce que lui joue très bien et il y a quelque chose à jouer dans cette scène.
Et il y a même une surprise, rappelle-toi, il voit par la fenêtre cette ambassadrice étrangère qu'il avait séduite.
Oui, bien sûr.
Et qui lui avait dit, en gros, rappelez-moi quand vous êtes plus président ou je sais pas quoi. Et on la voit, elle passe par la fenêtre en bas de chez lui par hasard, il la voit et il prend son téléphone. Et évidemment, tu te dis, ok, il va appeler cette femme et il va reprendre une nouvelle vie sentimentale. Et en fait, pas du tout. Il appelle la directrice de Vogue pour, en fait, au final, parler de sa femme. Je trouve ça très touchant.
Oui, ben non, mais je suis complètement d'accord, mais du coup, encore une fois, à part cette séquence de fin que je trouve assez délicate et assez sensible et sincère, et par ailleurs, je trouve que la relation parce que sa fille travaille avec lui dans l'histoire, et je trouve que, pareil, la fille joue très bien, et c'est plutôt elle aussi qui va justement avoir un débat aussi avec une des femmes qui demande la grâce présidentielle. Il y a vraiment, en tout cas, un côté, je trouvais quand même assez lourdeau en global dans ce film, quand même.
Autre scène très belle quand même, tu sais, quand avec la meilleure amie de la mère, enfin de la veuve, de la femme décédée, la meilleure
qui dans le véhicule.
Ouais, moi, ouais. Moi j'ai trouvé que c'était hyper beau aussi.
Bah après,
son rapport à elle, où il apprend. Enfin, on va pas tout spoiler, mais il y a évidemment un troisième personnage qui est la meilleure amie de la femme et qui est aussi quelqu'un de très important dans la famille. Et voilà, il se passe des choses dans les dialogues que j'ai trouvé très très beau et doux, quoi.
Bah, alors oui, la scène est plutôt mignonne, mais en fait parce que ça, on le sait assez. Je suis pas sûr que ce soit un gros spoiler, mais en gros, la femme a trompé le président il y a 40 ans. Et je trouve que c'est pareil, c'est un truc un peu. Alors moi, j'avoue, peut-être que ça m'a juste pas touché là-dessus et j'ai pas très bien compris, mais j'avoue, ce truc-là, j'en avais un peu rien à faire. J'ai l'impression que c'était un peu un vieux débat de vieux monsieur qui fait « Ma femme m'a trompé il y a 40 ans et je veux absolument savoir qui c'est !» Et ça fait juste, en fait, une espèce de petit challenge supplémentaire pour le scénario, mais qui, je trouve, n'apporte absolument rien à l'histoire, à part un petit ton un peu comédie, mais que je trouve presque, moi, plus pénible qu'autre chose, justement.
Bah, il y a cette touche comique, mais la chute de ça en devient une scène assez touchante, quoi. En fait, c'est construit comme ça.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country. Donc, Sam Raimi, cinéaste, évidemment, je pense pas mal de nos auditeurs connaissent, hein, puisque c'est le papa de tous les Evil Dead. En tout cas, les trois premiers, plutôt. Après, il est producteur sur les plus récents. Et puis, bah, voilà, cinéaste qui a signé le premier Spider-Man, hein, qui était de 2000 ou 2001, qui était assez extraordinaire à l'époque. Et puis, qui a fait deux, trois autres films d'horreur, notamment,
Jusqu'en enfer.
Merci. Et c'est lui qui a fait aussi un autre Marvel, qui je crois n'était pas terrible, que je n'ai pas vu, mais toi tu l'as vu, Docteur...
Doctor Strange 2.
Ouais.
Ouais, oui, non, qui n'était pas.
Qui était pas
mais de toute façon, en vrai, Sam Raimi, ça fait. En vrai, depuis Spider-Man. Enfin, même déjà le 3, c'était pas terrible. En gros, depuis.
Ah oui, il avait fait les 3 premiers.
Ah bah ouais, mais le 3, il était pas bien. Mais il a fait, du coup, Jusqu'en enfer, c'était 2009. Et en fait, depuis, il a fait. Enfin, franchement, il a fait le retour du
2006,
Magicien d'Oz.
C'était 2009. Ah oui, il a fait ça.
Il a fait le Magicien d'Oz. Il a fait. Enfin, il a fait, du coup, là, le Doctor Strange. Franchement, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas sorti un bon film, en vrai.
Mais il est rattaché quand même. C'est un nom du cinéma de genre et du cinéma d'horreur très important. Il produit aussi.
Il produit beaucoup.
Voilà, il produit beaucoup. Notamment des avant il coproduisait et maintenant il a une firme aussi, l'espèce de Sam Raimi présente un truc comme ça, enfin c'est quelqu'un d'important dans le nom de l'horreur. Et donc sort Send Help, qui est un film de ton comique horrifique, peut-être je dirais pas horrifique mais comique, ouais, comique gore violent, quoi, et qui raconte l'histoire d'une employée jouée par Rachel McAdams, qui est un peu une employée un petit peu différente, un peu étrange,
un peu victimisée aussi,
complètement victimisée, et qui se retrouve en gros après un crash d'avion avec son patron qui l'a humilié pendant les 20 premières minutes du film, et puis ils se retrouvent tous les deux sur une île et il se trouve que elle c'est une survivaliste, en tout cas c'est une nana qui a des connaissances de survie excessivement poussées et que lui est incapable de faire quoi que ce soit et que donc le pouvoir s'inverse. Charles, je te laisse nous dire un petit peu d'abord ce que t'en as pensé.
Bah, c'est bête, moche, méchant. C'est vraiment, moi, franchement...
C'est volontairement bête, hein.
Ah oui, bien sûr. Oui, non, dans un sens très, très gentil du terme que je dis ça. Mais c'est... moi, vraiment, je m'attendais pas à plus, je m'attendais pas à moins. Je pense qu'il y aurait pu avoir toujours pareil, on dit toujours ça, en fait, ce genre de film, je crois, parfois, mais ça manque un petit peu de folie, je trouve, dans les dernières 15 minutes, un peu dans le climax du film, ça manque un peu de... Un peu plus de... J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus barjo, mais dans l'ensemble, je trouve que Sam Raimi, là, revient à quelque chose d'assez cool, c'est-à-dire que les scènes de gags sont vraiment, vraiment marrantes, hein, vraiment méchantes aussi. Les scènes gore, quand même, quand il y en a, franchement, il y a une scène avec un sanglier où c'est vraiment barjo. Le crash d'avion au début, il est quand même assez marrant aussi. Enfin, je trouve que les moments méchants sont vraiment méchants, sont plutôt méchamment drôles. Et il y a quelques petites scènes un tout petit peu horrifiques qui marchent vraiment plutôt bien. Il y a une espèce de scène de fantôme qui est plutôt réussie, je trouve. Après, voilà, si je devais un peu plus réfléchir sur le film, je pense qu'il y a des choses qui me gêneraient un peu. Peut-être qu'on pourra en parler vite fait à la fin, parce que je pense que c'est vraiment pas le but du film de montrer quoi que ce soit, en fait, finalement. Mais dans l'ensemble, quand même, j'ai passé un bon moment. Je suis pas sûr qu'il y ait mille trucs à en dire non plus, mais en tout cas, pour ce que le film m'a proposé, ça fait du bien de voir un film de commande qui fait vraiment le taf, quoi.
Ouais, moi, effectivement, grand plaisir de redécouvrir Sam Raimi au cinéma dans un genre dans lequel il excelle. Après, je suis assez d'accord, il manque cette touche de folie qu'il y avait dans les Evil Dead, et évidemment, quand on fait Evil Dead 2, par exemple, qui est totalement décomplexé, totalement fou, on a envie un petit peu qu'il lâche encore plus le moteur, quoi, la bride, et je trouve que Sam Help à la fois marche bien et en même temps ne va pas assez loin, reste sage dans sa globalité. J'entends, il y a évidemment quelques scènes assez marrantes, il y a une scène avec du vomi aussi qui est vraiment très marrante, mais voilà, je trouve que ça part pas assez loin, et je trouve qu'il y a des longueurs un peu dans les conversations. En fait, le film dure presque 2 heures, ce qui est quand même beaucoup pour un film comme ça. Et il y a un concept, tu sais, il y a un concept un peu, je pense que c'est un peu ce que tu voulais dire quand tu dis bête, il y a un concept méchant, tout ça. Il y a un concept un peu les contes de la crypte, tu sais, ça pourrait être un petit épisode d'une heure un peu méchant, un peu nerveux, un peu qui bite, quoi, tu sais, qui mord un peu mordant.
Ouais, un peu satire, ouais. Sarcastique, complètement. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que ça fait très très, t'as raison, complètement, les contes de la crypte, ouais.
Il y a une vibes, ouais, un peu, tu vois, mais le problème, c'est que ça fait la durée de 2 contes de la crypte, quoi, c'est 2 heures quand même, enfin 1h54, et je trouve que ça, c'est un petit peu l'endroit où ça pêche. En revanche, voilà, personnage féminin hyper marrant, hyper badass, effectivement 2-3 scènes gore très très cool, et puis un concept aussi, quand même, moi j'aime bien ces films à concept, deux personnes sur une île déserte, quoi. En fait, ça te rappelle aussi que tu peux faire du cinoche avec très peu de choses, hein. Évidemment, il y a un crash d'avion au début, etc., qui est pas ultra bien fait visuellement, je trouve, mais je pense que c'est assumé. Je sais, oui, pas trop puis, ce que t'en penses.
Et puis ce que ça propose est assez marrant.
Oui, en revanche, c'est très drôle. Ça, je suis d'accord. En fait, il est très drôle, mais visuellement, il est pas dingue, je trouve.
Non, mais pour moi, c'est quasiment une des vannes du film que j'aime beaucoup. Parce que les morts sont un peu marrantes dans ce crash d'avion, puisqu'il y a 2-3 personnes qui meurent avant que vraiment ils soient tous les deux. Et il y en a un qui se fait. Il y a un des businessmen qui, bien sûr, avait un peu bully la meuf avant. Et il se fait accrocher par sa cravate ou par ses bretelles. Et il y a vraiment sa tête qui frappe contre le hublot, là.
Depuis l'extérieur.
Et c'est complètement bête. Et le mec, il demande de l'aide. Il se fait fracasser la tronche. Et vraiment, il y a un truc comme ça. En fait, ce qui est drôle, c'est bien sûr que c'est complètement absurde, quoi. Il y a plein de scènes comme ça, en fait, qui sont effectivement...
c'est très second degré.
Ouais, c'est très bête, quoi. Mais ça marche. Je trouve que ça marche très bien.
Et c'est très assumé de la part de Sam Raimi, en vrai. Il y a beaucoup d'humour comme ça. J'aime bien tout le segment dans le bureau où on découvre l'arrivée de ce nouveau président, hein, qui va saquer et humilier son employé. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a un moment où il fait sentir de la bouffe. Et tu sais, t'as vraiment des gros plans sur les narines du mec, sur les yeux, en courte focale. Enfin, il y a un rapport quand même où on sent que le cinéaste, il s'amuse, il veut s'amuser, il ne se prend pas au sérieux. Et ça, c'est les grandes années de Sam Raimi aussi. Mais je trouve qu'il manque cette folie pour en faire un très, très bon film. Et résultat, c'est un film cool, bien foutu, très sympa, mais qui n'a pas la résonance d'un Evil Dead, quoi.
Ouais, bah ça après c'est compliqué, mais c'est vrai que c'est juste que la fin est très téléphonée, en fait. Dans les 30 premières minutes du film, en fait, l'héroïne et le personnage masculin aussi papotent d'un truc et on fait « Ah, bah ça je pense que ça va être important pour la suite, je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu foireux là-dedans ». Et bien sûr, à la fin, bah ça rate pas, c'est exactement ce qui se passe à la fin du film. Donc il y a un truc comme ça où tu te dis « Bah c'est justement à ce moment-là où j'aurais bien aimé qu'il y ait, je sais pas... je sais pas, je dis n'importe quoi, mais je sais pas, une tribu cannibale en fait sur l'île ou n'importe en fait, je sais pas, ou un truc à la Lost, je sais pas, de la fumée noire, ce que vous voulez, mais quelque chose qui me surprenne un peu, parce que pour être honnête, je trouve que les séquences du film, moi, m'ont vraiment surpris dans un bon sens du terme, c'est-à-dire il y a une séquence un peu de fantôme où il y a un jumpscare qui est plutôt bien foutu, il y a la scène du sanglier que je trouve super bien, la séquence effectivement où il y a du vomi partout, elle est gaulerie aussi, je trouve que comme ça, il y a plein d'idées qui sont très très agréables dans le film, et c'est vraiment là où je suis d'accord par contre, c'est qu'effectivement en dehors de la fin téléphonée, c'est je crois que le 2 heures, c'est effectivement trop. Je pense que plus ramassé, ça aurait été un déferlement de comédie, et ça aurait été, je pense, super, plutôt que de mettre un tout petit peu plus de drame ou un peu plus de tension.
Et d'autant que, je sais pas si tu te souviens, il y a cette scène avec la fiancée aussi du président qui est donc sur l'île, enfin du président de la société. Bref, il y a la fiancée qui les retrouve.
Tout d'un coup, je me dis que tu étais en train de mixer ça.
Je suis en défaillance cérébrale totale. J'injecte la gratia dans Send Help. Enfin bon. Non, mais donc tout d'un coup, et tu vois, ça par exemple, ça aurait pu être monstrueux. C'est-à-dire qu'il y a la fiancée qui cherche son mari disparu, qui trouve l'île, qui arrive. Et évidemment, elle tombe sur Rachel McAdams. Et on comprend que Rachel McAdams, tout le principe du film, c'est qu'elle veut rester sur cette île parce qu'elle est en fait à sa place. Entre autres, il y a d'autres choses qui se jouent. On comprend qu'elle va buter la fiancée. Et ça, typiquement, je trouve qu'il passe un peu à côté. Ça aurait pu être extraordinairement drôle et trash et gore. Et en fait, ça va très très vite, la mort. Et c'est un peu dommage, tu vois.
Mais parce que ça, moi, c'est un peu ce que je regarde dans le film. Bon, bien sûr, que les personnages soient caricaturaux, c'est pas un problème. Mais je trouve que, par exemple, il y a une espèce d'ellipse de temps avant de vraiment montrer ce qui s'est passé. Et je pense qu'il y a une envie de Sam Raimi ou des monteurs de pas montrer ce personnage principal comme quelqu'un de complètement négatif.
Ouais.
Et moi, c'est ça qui me gêne un peu, parce que la fin du film montre quelque chose. Et c'est là où, si je commence à réfléchir au film, je me demande si en fait, parce que là, on parle quand même d'une femme qui a eu des problèmes par le passé avec son mari, etc. Enfin, il y a tout un drame qui se passe en vrai. Et en fait, on met un peu, j'ai l'impression parfois en concurrence, le drame de cette femme avec ce président de cabinet, où en fait, on dit, je sais pas comment dire, c'est que on met deux monstres ou deux possibles monstres à la même place, ou en disant plutôt elle devient un monstre alors que lui en était déjà un. Et en fait, à la fin, c'est un peu kiff-kiff. Et malheureusement, je crois que par rapport au passé de cette femme, par exemple, et à ce qu'elle représente, ça peut être un peu... Je trouve c'est un peu bizarre de montrer ça. C'est-à-dire qu'elle soit vraiment complètement au même niveau de cruauté ou de diabolisation que cet homme. Et je pense qu'en termes d'écriture de personnage, c'est là où ça manque un peu de quelque chose. Ou en tout cas, peut-être que le film aussi ne veut pas montrer ça, mais il y a un moment ou deux, j'ai fait « Oula, ça touche quelque chose où je ne suis pas forcément d'accord, en tout cas. »
Oui, puis ça équilibre. Dès qu'elle, elle devient... elle fait un move de salope, lui, il est gentil. Et dès que lui, il fait un move de salaud, elle est gentille. Il y a un espèce d'équilibre qui est effectivement un petit peu branlant. Je suis assez d'accord.
Et redondant aussi, du coup.
Mais de fait, Sam Raimi, c'est une marque, hein, quelque part, c'est un nom qui résonne. Moi, je m'attendais un peu plus que ce que j'ai vu, mais j'en sors amusé. Ça fait du bien, c'est un film qui cartonne, donc ça fait toujours plaisir quand un film de genre cartonne au box-office. Ça laisse de la place à d'autres derrière, et puis on espère qu'il reviendra dans cette veine. C'est quand même là où il est en forme, quoi.
Bah ouais, et puis vraiment ça fait du bien, ça faisait vraiment, pour moi ça faisait vraiment 15 ans que Sam Raimi avait pas sorti un bon film en vrai, donc c'est toujours cool.
Absolument, même si Spider-Man était chambé quand même, mais c'était il y a 25 ans.
C'était vrai.
Non mais je veux dire, il est pas que bon dans le genre, il a aussi fait Spider-Man, etc. Mais...
Il a fait Mort ou Vif.
Et je l'ai pas vu, moi.
Ah, c'est bien Mort ou Vif.
Mais c'est vrai que c'est cool de le voir de retour là-dedans, quoi. Très bien, bah écoute, Popcorn et Banjo, la 18e, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, on espère que vous allez aller un max au cinéma.
Salut.
Ciao, ciao.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.